les amphis d'Amicus.
Dans cette édition spéciale, les étudiants de Master 2 de l'Université Paris Panthéon-Assas prennent la parole et partagent leur regard sur des questions juridiques actuelles autour du micro d'Amicus Radio.
Aujourd'hui, Aubin Jupin nous parle de l'adaptation de la procédure pénale au phénomène terroriste. Épisode 4, adaptation de la procédure pénale après le jugement.
Chères auditrices, chers auditeurs, dans l'épisode précédent, nous nous sommes intéressés à l'étape cruciale du jugement proprement dit, là où se décide la culpabilité et la peine de l'accusé. Pourtant, son voyage sur le chemin judiciaire ne fait que commencer. L'étape de l'exécution et de l'application des peines est, dans tout le processus pénal, la moins connue du grand public et des juristes. Il est certain qu'il s'agit d'une matière très technique et particulière, qui ne se prête guère à l'excitation de l'enquête véhiculée par les séries policières ou par le suspense d'un procès à l'issue incertaine. Néanmoins, ce serait un tort d'ignorer cette étape, tout simplement car elle est nécessaire à l'un des objectifs fondamentaux de la peine pénale, la réinsertion du condamné dans la société. L'application des peines peut en effet être définie comme l'ensemble des mécanismes juridiques permettant à un juge, le juge de l'application des peines, de traiter de manière individualisée un condamné. Ce traitement individualisé a notamment pour objectif de minimiser le risque de récidive de l'individu et de le préparer à ses retrouvailles avec le monde extérieur. À l'orée de cette courte définition, il n'est pas difficile de comprendre en quoi le fait qu'un condamné le soit pour des actes de terrorisme peut bouleverser cette approche. D'une part, ces actes sont souvent d'une très grande gravité. Mais surtout, la radicalité idéologique du coupable peut faire craindre une réitération une fois la peine purgée. Dans ces conditions, il s'agit de prévoir des adaptations permettant d'exécuter et d'aménager la peine dans des conditions apaisées. La matière est également complexe en raison de l'office très exposé du juge de l'application des peines. En effet, si le condamné récidive pendant sa période de libération conditionnelle ou de semi-liberté, les médias et le grand public seront prompts à accuser le juge d'avoir laissé sortir une personne dangereuse, sans parfois qu'il n'ait pu le prévoir. Le juge a donc toujours en tête cette possibilité, et ce d'autant plus lorsque le condamné est un terroriste. Une constante se maintient dans la phase post-jugement, c'est celle de la spécialisation des juridictions, toujours dans un même objectif de concentration du contentieux dans des mains expertes et dotées de moyens augmentés, afin aussi d'obtenir une jurisprudence homogène. Au niveau de l'application des peines, une loi du 23 janvier 2006 avait prévu une compétence exclusive du juge de l'application des peines parisien, peu importe le lieu de détention ou de résidence habituelle du condamné. Cette solution, néanmoins et comme on l'a vu, était en discordance avec la spécialisation concurrente au stade de l'enquête et du jugement. Désormais, depuis une loi du 3 juin 2016, le juge de l'application des peines parisien est exclusivement compétent pour les individus condamnés pour des actes de terrorisme par une juridiction parisienne. Et il dispose également d'une compétence concurrente lorsqu'un tel condamné l'a été par une autre juridiction. Lorsque le juge parisien exerce cette compétence, le juge local se contente de transmettre la demande, accompagnée d'un avis consultatif. Cette spécialisation soulève un problème, celui de la comparution du condamné devant le juge parisien s'il est détenu ailleurs qu'en région parisienne. Le code de procédure pénale prévoit une dérogation importante au principe de la comparution en personne en indiquant qu'en principe, le condamné comparait au moyen d'une visioconférence. Cette solution, certes pratique, est cependant critiquable sur le plan des droits de la défense, car l'intermédiaire technologique rend souvent bien plus compliqué l'expression fluide et sincère du condamné, alors que ses motivations sont au centre de l'examen mené par les juges. La spécialisation s'opère également, et nous entrons maintenant dans le vif du sujet, dans les mesures qui peuvent bénéficier aux individus condamnés pour des actes de terrorisme. Un individu condamné à une infraction non terroriste peut faire l'objet de plusieurs formes d'aménagement de sa peine. Réduction de peine, placement en semi-liberté, sous surveillance électronique, ou encore libération conditionnelle. Toutes ces mesures ont un objectif de réinsertion du condamné et de prévention de la récidive. Mais l'on comprend bien qu'elles peuvent être vues comme des faveurs au condamné, qui restera moins longtemps enfermé, et qu'une telle faveur est bien plus difficile à envisager pour un terroriste, désigné pendant tout le processus pénal comme ennemi, que pour un condamné de droit commun. Prenons l'exemple de la libération conditionnelle, une mesure qui consiste à placer un condamné en liberté, peu avant la fin de sa peine, tout en le soumettant à certaines obligations. La libération conditionnelle est octroyée par le juge de l'application des peines, ou plus rarement, par le tribunal de l'application des peines lorsque le condamné a encore au minimum 3 ans de prison à purger, ou a été condamné à une peine supérieure à 10 ans de prison. Ce tribunal, comptant 3 juges au lieu d'un, est donc institué pour les affaires plus graves, et sa philosophie est donc nécessairement plus sévère. Or, la loi prévoit que ce tribunal est compétent pour toute libération conditionnelle demandée par un individu condamné pour acte de terrorisme, à l'exception de la provocation et de l'apologie du terrorisme, peu importe la peine qu'il a reçue ou le temps qu'il lui reste en prison. Ensuite, la libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné terroriste que s'il a d'abord exécuté une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique d'une durée d'au moins 1 an. Cette exigence a évidemment pour objectif de tester en amont le condamné avant de lui rendre une partie de sa liberté. Le dernier aménagement n'est pas des moindres, car il illustre bien la méfiance avec laquelle on traite le condamné terroriste. La loi prévoit que le juge peut refuser la libération conditionnelle si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. Il ne suffit donc pas de remplir toutes les conditions légales pour obtenir sa libération, et l'on pourrait critiquer cette formulation très vague d'un trouble à l'ordre public qui laisse la part belle à l'interprétation.
Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas seule sur terre, elle est pas commode, non, elle est pas commode, elle est pas froide, elle est pas chaude pour une nuit réaliste, elle est pas créditeur, elle est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire, elle est pas comme ma mère, elle est pas sagère, elle est pas pacifiste, elle est pas d'accord, elle est passionnée, elle est pas fut-fut, elle est pas tétique, elle aime pas tout métique, elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est pas récieuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas de la région PACA, elle a qu'à s'envoler. Léa, elle est parisienne, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus, elle est pas toujours drôle, elle est pas libre, elle est pas tentée, elle est paternaliste, elle est pas inspirée, elle est patiente, elle est pas sticheuse, elle est pas cible, elle fait pas la politique. Léa, les parisiennes, les pas présentables, les pas jolies, elle est pas moche non plus. Les pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite, elle a pas volé, les pas signe shot, elle est pas stand, elle est pas stable, elle est pas stable, elle est pas partout, elle dit qu'elle partira, elle est même pas venue, elle est partisane, elle est pas papa sortable et sage, où les papas déjà dit qu'elle est parisienne, quelle parisienne, elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Les parisiennes, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite.
Parfois, la loi refuse plus radicalement le bénéfice d'un aménagement de peine aux condamnés terroristes. Il en est ainsi de la suspension et du fractionnement de la peine, de la semi-liberté et du placement en extérieur. En outre, les réductions de peine décidées sur le fondement d'une bonne conduite ne peuvent excéder 3 mois par année d'emprisonnement, contrairement à 6 mois pour le condamné de droit commun. On évoquait en introduction de cet épisode la question de l'éventuelle radicalisation du condamné terroriste, qui complique le cas échéant le processus de réinsertion et donc d'aménagement de la peine. Pour tenter de lutter contre cette radicalisation et préparer l'avenir, l'administration pénitentiaire a mis en place des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Selon le résultat des observations recueillies, le détenu est ensuite renvoyé vers un programme de prévention de la radicalisation violente, un quartier de prise en charge de la radicalisation ou un quartier d'isolement. Relativement nouveau, ces dispositifs soulèvent un certain nombre de questions relatives à l'information et aux voies de recours contre des décisions importantes pour le parcours pénitentiaire, comme le dénonce le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans un rapport en 2020. Pour conclure cet épisode, notons que le droit poursuit un aménagement de la procédure dans un sens de sévérité à l'égard du condamné terroriste, comme dans les autres phases du processus pénal. Cette sévérité s'observe aussi, de manière moins évidente car plus concrète, dans la pratique des juridictions d'application des peines et du ministère public. Le parquet national antiterroriste, qui requiert sur les demandes en première instance, s'y oppose quasiment systématiquement, et les juges sont globalement beaucoup plus frileux en raison des potentielles conséquences. À ce stade comme aux autres, l'équilibre entre sécurité et droit des individus n'est pas aisé à trouver. Je vous remercie de votre écoute. Dans le prochain et dernier épisode, Marie-Lou vous présentera le glissement, en matière de terrorisme, d'une législation d'exception à une insertion dans le droit commun de la procédure pénale.
Cet épisode des Amphis a été produit par Amicus Radio, avec le soutien de la Fondation Panthéon Assas, qui encourage et valorise l'entrepreneuriat étudiant. Merci à la professeure Cécile Chenet et à Aubin Jupin pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.